C'est au début de la décennie 2000 que commence réellement cette stratégie et cette recherche d'un secteur porteur pour sa politique étrangère. Le Qatar, lui, est le pays le plus entreprenant en termes d'investissement du sport comme un outil d'influence. Par exemple, face au Qatar, il y a l'Émirat de Dubaï et c'est l'opposé de l'investissement du Qatar dans le sport. C'est-à-dire pour Dubaï, le sport est un vecteur économique. Quand pour le Qatar, c'est un vecteur d'influence avant tout. Le Qatar ne recherche pas de l'économique à travers l'investissement dans le sport. Et c'est pour ça que souvent, il y a des incompréhensions, des quiproquos vus d'Europe face aux décisions prises par les investisseurs qatariens, notamment par rapport au PSG et dans les sommes déboursées. Et il faut bien comprendre que pour le Qatar, investir dans le sport, c'est comme investir dans le milieu de la défense. Et c'est pourquoi parfois les sommes peuvent apparaître démentielles pour un public européen.
Comment le football en particulier a-t-il été mis au service du nationalisme qatarien?
Il y a un sentiment national que le pouvoir souhaite toujours structurer et cette Coupe du Monde participe à donner ce sentiment de fierté nationale. Toujours autour de la figure de l'émir qui domine cette Coupe du Monde, c'est l'émir qui offre cette Coupe du Monde à sa société et qui place le Qatar au sein même de l'échiquier mondial.
Quelle que soit l'issue de cette Coupe du Monde de football, est-ce que l'on peut dire que Doha a déjà pris un temps d'avance dans la géopolitique régionale par rapport à ses voisins?
On peut dire que Doha a réussi son pari parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que pour Doha, ce que Doha recherche avant tout, ce n'est pas l'image, mais c'est l'influence qu'il peut avoir grâce à l'investissement dans le sport et dans l'industrie du sport mondial. Il est toujours en recherche de cette influence et de cette légitimité auprès des puissants acteurs du sport mondial. Donc Doha, dans ce contexte, a pris un temps d'avance parce que il a développé depuis maintenant deux décennies de manière très offensive une politique dans ce domaine et il est très bien placé aujourd'hui, bien que son image en Occident soit en grande partie négative. Le Qatar a réussi son pari de peser sur les sphères du pouvoir et sur les sphères qui, en fin de compte, font le monde d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il faut craindre que la Coupe du Monde, une fois achevée, plus personne ne s'intéresse au Qatar et notamment aux conditions de vie des travailleurs étrangers?
En fait, le risque, c'est que y ait l'effet Coupe du Monde, l'effet buzz du moment, et que ça retombe après. Et donc, ça serait dramatique parce que après la Coupe du Monde, le Qatar va continuer à se développer et à construire son pays. Parce qu'il faut bien voir que le Qatar, depuis deux décennies, c'est un immense chantier. Il y a des constructions en permanence, nuit et jour. Et donc, cela ne va pas forcément cesser avec la Coupe du Monde. Et c'est pourquoi il est important de continuer la pression même au-delà de la Coupe du Monde. Le risque, c'est qu'il y ait un effet boomerang, qu'après cette Coupe du Monde, il y ait moins d'intérêt porté au Qatar et au sort des travailleurs étrangers qui vivent au Qatar. Donc il faudra faire vraiment attention sur l'après-Coupe du Monde, que toutes les réformes prises par le Qatar s'appliquent réellement sur le terrain. Pour cela, les ONG vont continuer à faire leur travail là-bas et continueront à faire cette pression. Mais il faudra que les médias soient aussi toujours présents autour de cette question et le mettent en lumière. Éviter le fait que ces ouvriers retombent dans l'ombre et vivent toujours dans ces mêmes conditions, en grande partie inhumaines.